Bonsoir à tous et nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir pour parler de ce sujet important au commencement. Alors, la Bible a beau être la parole de Dieu, et depuis des centaines d'années, quand quelqu'un qui croyait que la Bible est la parole de Dieu, quand il ouvrait la Bible et qu'il lisait ces mots, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et puis, continuant sa lecture du premier chapitre de la Bible, il lit le récit de la création du monde, de la planète Terre, et tout ce qui se trouve sur cette planète dans l'espace d'une trentaine de versets. Et jusqu'à à peu près 100-150 ans, pour des chrétiens qui croyaient la Bible, ça ne posait aucun problème. Ils le prenaient comme c'est écrit, comme un récit historique, le récit de quelqu'un qui était là, qui a vu les événements, et qui les rapporte fidèlement. Comme n'importe qui d'entre nous, on ira au commissariat de police, on dirait j'ai vu une voiture taper sur une autre voiture au coin de telle rue, à telle heure, dans telle circonstance. Votre témoignage serait pris au sérieux. Vous étiez là, vous l'avez vu. Ici, c'est la même chose. Au début, du début, quelqu'un était là, il a vu tout ce qui s'est passé, et il le rapporte fidèlement. Alors, bien entendu, la Bible est très claire que c'est Moïse qui a écrit ce récit et que Moïse a vécu 1500 ans avant Jésus-Christ et selon les datations bibliques, 2500 ans après les événements de Genèse 1. Genèse 1, ces événements de Genèse 1, si on se rapporte aux généalogies, auraient eu lieu à peu près 4000 ans avant Jésus-Christ. Ça, c'est le témoignage que la Bible elle-même rend à Genèse 1 et Genèse 2 à la lumière des chapitres suivants. Que s'est-il passé? Darwin n'était loin pas le premier, mais c'était le plus connu qui a décidé d'écrire sur le fait qu'il pensait que finalement les espèces avaient évolué par le hasard. Et comme on sait que le hasard ne fait rien de très rapidement et ne fait rien de bien, pour que le hasard amène la multiplicité de formes de vie que nous constatons aujourd'hui, il a fallu évidemment une très longue période de temps. Et ça fait un tel bruit dans le monde, les scientifiques ont sauté sur l'occasion pour développer une théorie. Pour la première fois des temps modernes, on allait expliquer l'origine de toute chose par autre chose qu'un Dieu créateur. On allait expliquer ça par le hasard et la sélection naturelle. Et évidemment, tout de suite, on s'est dit, il faut des millions et même des milliards d'années pour que tout ça se mette en place comme on le voit aujourd'hui. Et par conséquent, les chrétiens évangéliques ont commencé à relire le passage en disant « Il faudrait trouver un moyen de faire coïncider le récit de la Genèse » avec la théorie de l'évolution, tant que Darwin l'a développée et ses successeurs, et comprendre que ça ne s'est pas passé comme c'est écrit, mais ces passages sont des allégories, des symbolismes, un jour n'est pas un jour, c'est des milliards d'années ou c'est des longues périodes, et ça ne s'est pas passé comme ça en a l'air dans la Genèse. Mais revenons en arrière. Contemplons d'abord cette Bible. Peut-être que vous avez un exemplaire de la Bible, elles sont toutes les mêmes. La rédaction de la Bible a commencé 15 siècles avant Jésus-Christ et s'est terminée 100 ans à peu près après la naissance de Jésus-Christ. Ça représente une période de 16 siècles de livres. Ce livre, donc, c'est un ensemble de plusieurs livres, 66 livres, a été conservé par des milliers de manuscrits, des copies ont été faites en hébreu et en grec. Il y a par exemple plus de 5000 manuscrits grecs pour le Nouveau Testament. Cette Bible a été traduite depuis en 1500 langues. Et depuis que l'imprimerie existe, c'est le livre le plus imprimé et le plus diffusé à travers la planète. La Bible aussi, quand on lit la Bible, même superficiellement, on découvre un peu tous les sujets. Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de récits historiques, bien documentés. Il y a de la science, il y a de la géographie, de la sociologie, les rapports des hommes entre eux. Il y a de l'instruction, il y a des enseignements sur la famille. Il y a un peu de, le droit aussi, du droit. Il y a la biologie, il y a les mathématiques. Il y a l'astronomie et il y a aussi des questions spirituelles. Donc, il y a, tous les sujets sont abordés, y compris des questions spirituelles. Et des questions que nous nous posons tous. D'où est-ce que je viens? Quelle est ma destinée? Quelle est la raison de ma vie sur la terre? Pourquoi je suis sur terre? À quoi ça sert ma vie sur terre? Qu'est-ce que le bien et le mal? Qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que la raison? Qu'est-ce que l'intelligence? Toutes ces questions que l'on se pose naturellement, la Bible y apporte des réponses. Et dans tous ces domaines, que ce soit mathématiques, histoire, science ou autre, quand la Bible est interprétée selon son contexte, c'est-à-dire normalement, en tenant compte du sens normal des mots, elle est toujours en accord avec les réalités de ces domaines. Par exemple, dans le livre de Job, la Bible dit que le blanc de l'œuf n'a pas de saveur. Il n'y a pas si longtemps que des grands cuisiniers ont vraiment découvert que le blanc de l'œuf n'a vraiment aucune saveur. C'est utile, mais il n'y a pas de saveur. Il faut ajouter quelque chose pour avoir un goût en particulier. La Bible parle de la terre comme étant ronde, etc. Et donc, la Bible a été écrite longtemps avant qu'on ne découvre les choses qu'elle dit. C'est dit dans la Bible et on le découvre longtemps après. Et quand on les découvre, ça, c'est conforme à ce que disait la Bible. Si la Bible dit vrai dans tous ces autres domaines qu'elle traite, les domaines que nous pouvons vérifier, pourquoi ne pas faire confiance à la Bible pour traiter le seul domaine que nous ne pouvons pas vérifier? C'est le domaine de nos origines. En effet, ni vous, ni moi, ni nos ancêtres lointains ont été là au premier jour du monde. On n'était pas là. Nous sommes obligés donc de nous fier à des témoignages qui nous sont parvenus. Mais de la même manière, on n'a jamais vu Jules César. Aucun de nous ne l'a jamais vu. On se fie aux témoignages historiques et personne ne doute de l'existence de Jules César. Et c'est ainsi pour tous les effets et tous les événements historiques qui nous ont précédés. On se fie à des témoignages qu'on considère comme fiables parce qu'écrits par des témoins qui étaient sur place et qui nous ont dit ce qu'ils ont vu et entendu. De la même manière, il y a un témoin ici qui raconte comment ça s'est passé au début. Et pour ça, il y a la méthode scientifique. C'est Francis Bacon, un grand scientifique anglais, qui a vraiment donné forme à la méthode scientifique. C'est la méthode, normalement, avec laquelle tous les scientifiques doivent travailler. Quand un scientifique veut prouver quelque chose, il faut d'abord qu'il le vérifie lui-même. Il faut qu'il le vérifie plusieurs fois. Et il faut qu'il y ait toujours le même phénomène et jamais d'exception. Et si ça se produit toujours de la même manière, il en déduit que c'est une hypothèse et c'est peut-être même une loi scientifique. Si on laisse tomber cet objet par terre 500 fois, il va tomber sur le sol 500 fois, il ne va jamais monter de son propre gré, une seule fois. C'est tellement toujours pareil qu'on a déduit qu'il y a une loi de la pesanteur et tout objet laissé tombera, il ne montera pas. S'il est plus lourd que l'air, bien entendu. Tout ce qu'on ne pouvons pas vérifier par nous-mêmes, on ne peut pas le prouver. Si on ne peut pas le prouver, on ne peut pas dire que c'est une loi scientifique. On doit dire que c'est une hypothèse. On va former une hypothèse. Et on va essayer de voir si l'hypothèse est conforme à ce qu'on observe. Et alors, si l'hypothèse semble se vérifier, on dit, ah ben, c'est une théorie maintenant. Mais une théorie ne peut jamais devenir un fait scientifique puisqu'elle est invérifiable. Concernant l'origine du monde, donc l'origine du monde, il y a deux hypothèses. Il ne peut pas y en avoir une troisième. Il y a l'hypothèse d'un créateur qui donne le compte-rendu dans la Bible, c'est-à-dire cet univers a été créé par un créateur. L'autre hypothèse, c'est en absence du créateur, et donc l'origine du monde s'est faite par le hasard. Puisqu'aucune intelligence n'était là, c'est le hasard qui a fait ces choses-là. Et c'est un processus qui s'est fait par hasard et par ce qu'on appelle la sélection naturelle, c'est-à-dire une plante plus vigoureuse va vivre mieux qu'une plante qui est malade, et les plantes vigoureuses vont finir par se généraliser au détriment des plantes malades. Donc, sélection naturelle. Et ce qu'on va essayer de faire ce soir, c'est voir si le contenu de la Genèse a du sens. Si c'est vraisemblable, et est-ce que c'est en rapport avec ce qu'on peut constater? On ne peut pas dire aujourd'hui, je ne peux pas vous prouver aujourd'hui que Dieu a créé le monde. Je ne peux pas vous le prouver. Je ne peux pas vous le montrer. Je peux dire simplement, imaginons que Dieu a créé le monde. Si Dieu a créé le monde, on devrait voir tel ou tel phénomène. Si on voit les phénomènes, on peut dire, oui, c'est vraisemblable. Si on dit c'est le hasard, c'est par le hasard que le monde est venu, on devrait voir tel autre phénomène. Donc, quelle théorie va le mieux avec ce qu'on peut observer aujourd'hui dans la vie de tous les jours? C'est ainsi que l'on va procéder, si vous le voulez bien. Nous revenons donc en Genèse chapitre 1 et nous voyons dans le premier verset ce qu'on appelle une cause première. Une cause première, c'est qu'est-ce qui a causé? Aujourd'hui, dans l'évolution, c'est le Big Bang. Alors le Big Bang, ils ont essayé de calculer si tout a dû partir d'un petit point, quelle était la taille de ce petit point, combien pesait ce petit point, combien d'énergie y avait-il dans ce petit point pour engendrer l'univers. Ils sont arrivés à des calculs. Et ils ont dit, d'abord, ce petit point a dû exploser il y a 15,6 milliards d'années, et il devait peser tant et tant, etc. Et on a toute une théorie qui est très très complexe par rapport à comment un point dans le néant a pu engendrer l'univers tout entier. La cause première ici, c'est Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, il y a l'univers, et en dehors de cet univers, quelqu'un qui ne dépend pas de l'univers. Il est là avant l'univers, il a imaginé, il a fabriqué, il a créé une cause. L'univers est un effet, le produit, et le créateur est la cause de l'univers. Alors, ce Dieu, cette cause, est un être qui est présenté dans la Bible comme un être tout-puissant, donc capable de créer l'univers de la taille qu'il est. C'est un être qui a toute intelligence, donc infiniment intelligent, infiniment ordonné. Ça, c'est les caractéristiques de ce créateur. Nous regardons l'univers, nous voyons un univers absolument immense, qui est bien ordonné et qui est régi selon des lois bien précises. Si on voit une maison extrêmement bien construite, très jolie et bien ordonnée dans tous ses domaines, immédiatement, on arrive à la pensée, c'est un architecte extrêmement intelligent et très précis qui a dû organiser, dessiner, et c'est des maçons et des corps de métier d'une grande qualité qui ont dû travailler sur cette maison. C'est l'idée qu'on aurait tout de suite. Si on voit un jardin extrêmement bien ordonné, on dit, il doit avoir un très bon jardinier qui passe beaucoup de temps pour faire un jardin. Chaque fois qu'on voit quelque chose, on déduit comment est la personne qui l'a conçu. Et quand on voit l'univers dans sa complexité, depuis l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit, on dit le créateur ou la cause première doit être encore plus intelligent et plus fort que ce qu'il a créé. Encore le jardin, je reviens au jardin, c'est la chose la plus bête qui soit, la plus simple qui soit, mais un jardin qui est laissé à l'abandon, on le reconnaît immédiatement. Un jardin qui est bien soigné, on le reconnaît immédiatement. Et un jardin qui est soigné une fois tous les 10 jours, une fois tous les 15 jours, on le reconnaît aussi. On peut pratiquement dire à quel point, à quelle fréquence le jardinier pénètre dans son jardin, juste en voyant l'état du jardin un jour. Hein? Parce qu'on a vu des jardins de toutes les manières possibles. Eh bien, en voyant l'univers avec son ordre absolument complexe, on a l'impression que le Créateur est encore là pour maintenir son univers en place. Avant le premier jour, donc, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, avant le premier jour, il y a toute la matière et toute l'énergie qui est déjà disponible. Tout le matériel est sur place. Et donc, Dieu, qui est donc la source de ça, qui est à la fois matière, qui peut créer la matière et l'énergie avec sa voix, parce qu'il dit que Dieu dit et les choses sont arrivées, ce Dieu tout-puissant est la cause de cet univers. Il a créé donc la matière et l'énergie. Alors, on voit dans le verset 2, enfin on voit les cieux et la terre. Donc, on a la terre avec son atmosphère, on a la rotation, et la surface est recouverte d'eau. On le voit dans le verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, on voit là l'image d'une planète Terre recouverte d'eau et relativement dans les ténèbres. Les choses ne sont pas bien précises, mais il y a une planète qui est là. Ensuite, verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Tout ça, c'était avant le premier jour. Maintenant, on arrive au premier jour. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. D'où est venue cette lumière? Eh bien, le récit est clair. Dieu a dit, je veux qu'il y ait de la lumière, et il y avait eu de la lumière. Donc, il crée une source lumineuse. Il crée une source lumineuse qui va briller sur la sphère qui est notre Terre. La sphère qui est notre Terre qui tourne. La lumière va éclairer un côté de la sphère. Si la Terre tourne, la lumière va éclairer la sphère progressivement, va finir par éclairer toute la sphère, mais uniquement la moitié à un moment donné. Et nous arrivons, verset 4, la lumière, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Si vous prenez n'importe quelle source lumineuse et vous mettez un gros ballon devant, vous aurez la séparation entre la lumière et les ténèbres, ça sera en rond, hein, qui sera, séparera le côté obscur du côté éclairé, parce que votre source lumineuse est ici. Et donc Dieu sépare la lumière avec les ténèbres sur les deux côtés de cette sphère, et le côté enténébré, il appelle ça nuit. La qualité de la nuit, c'est qu'il n'y a pas de lumière, et le jour, c'est la partie éclairée bénéficiant de la source lumineuse. Si vous allez dehors maintenant, vous verrez que nous arrivons à la fin de la partie éclairée de Perpignan et on va bientôt entrer dans la partie nuit, ce qui veut dire, et on le sait tous, que la Terre aura tourné suffisamment pour quitter cette raie qui sépare la lumière des ténèbres. On entre dans la période de nuit. Et donc, le premier dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Donc, une rotation complète, un soir, un matin, le premier jour. Si Dieu nous parle de soir et de matin et de jour, obligatoirement, avec une source lumineuse, il y a une rotation de la planète. Sinon, des gens vivant de ce côté, ce serait jour tout le temps, et les gens vivant de ce côté, ce serait la nuit tout le temps. Donc, on est placé comme un témoin sur un point de cette sphère. On passe par une période de jour, on passe par une période de nuit, et quand les deux périodes sont achevées, ça fait un jour total. Aujourd'hui, sur la planète Terre, un jour, 24 heures, 24 heures à peu près, c'est la période d'une rotation de la Terre. Alors, je ne peux pas vous prouver que la Terre a toujours tourné à cette vitesse, mais en tous les cas, quelle que soit la vitesse, une rotation entière de la Terre faisait un jour de 24 heures, et Dieu appelle ça le premier jour. Dans le deuxième jour, alors bien sûr, ça crée des problèmes pour quelqu'un qui dit, je crois que Dieu a créé le monde, mais je crois qu'il a créé par l'évolution. Il achoppe sur ce problème de jour. Parce qu'il dit, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour. Certains disent, un jour, dans Genèse chapitre 1, il ne faut pas le prendre littéralement, il faut comprendre que c'est une longue période de temps. Le problème avec ça, c'est que une longue période de temps ne comporte pas une nuit et un jour. Une longue période de temps compte des milliers et des millions de nuits et de jours. La Terre tourne sur elle-même plusieurs dizaines de millions de fois pour faire 1000 ou 2000 ans ou 3000 ans, une longue période de temps, un milliard d'années. Tandis que là, c'est une sphère qui tourne sur elle-même, qui est éclairée la moitié du temps, en nuit, un jour, 24 heures. Si on s'en tient au texte biblique. Chaque fois, d'ailleurs, dans la Bible, le mot « jour », c'est le mot hébreu « yom ». Yom. Et ça désigne presque toujours une période de 24 heures. Chaque fois qu'on trouve le mot « jour » avec un chiffre genre 3 jours, 10 jours, 40 jours, c'est toujours les jours de 24 heures. Si on trouve un chiffre ordinal, le 10e jour, le 14e jour, c'est un jour de 24 heures. Il y a 2 ou 3 fois dans la Bible que l'on trouve le mot « jour » où ce n'est pas une période de 24 heures. Par exemple, le jour de l'Éternel, c'est une période. 1000 ans sont comme un jour c'est comme 1000 ans. Mais, de manière générale, chaque fois que le mot « jour » est utilisé, surtout dans un récit historique, c'est toujours 24 heures. Le 2e jour, on voit qu'une atmosphère est créée. On le voit dans le verset 6. Qu'il est étendu entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépare les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Alors, c'est curieux parce qu'au début, on voit l'abîme. On voit une planète recouverte d'eau. Et il dit, je vais séparer les eaux au-dessus avec les eaux en dessous. Ce qui veut dire qu'il y a lieu d'avoir une couche de vapeur d'eau assez conséquente. Et il semblerait qu'il ait fait monter cette vapeur d'eau à une certaine distance pour que les eaux sur la planète et les eaux en suspension dans l'air soient séparées, comme d'ailleurs on le voit aujourd'hui. On sort, on voit des nuages, on sait que ces nuages, c'est de l'eau. Mais parfois, elles sont à 4 ou 5 000 mètres ou plus ou moins. Parfois, ils sont bas, parfois, ils sont hauts. Parfois, il n'y en a pas, parfois, il y en a beaucoup. Mais en tout cas, cette eau qui est au-dessus des nuages, jusqu'à ce qu'elle devienne de la pluie, tombe sur nous et se vide. Mais il y a de l'eau au-dessus de notre tête et de l'eau sur notre planète. Et entre les deux, qu'est-ce que nous avons? On a l'atmosphère, on a l'air, on vit dans cette partie entre les deux eaux. Et donc, Dieu a fait cela. Maintenant, si on va un peu plus loin dans la Bible, dans Genèse chapitre 9 et 10, on découvre qu'il y a eu un déluge. Et la Bible dit, lors de ce déluge, il a plu 40 jours et 40 nuits sans discontinuer. Alors les gens ont fait des calculs, parce qu'on peut calculer à quelle vitesse la pluie tombe. Quand il tombe des cordes, on peut mesurer assez précisément combien ça fait d'eau par heure, combien de centimètres d'eau. Et ils ont calculé 40 jours et 40 nuits d'eau ferait environ 13 mètres 30 d'eau. 13 mètres 30 en moyenne sur toute la surface de la Terre. Or, aujourd'hui, dans notre firmament, on n'a pas autant d'eau dans les nuages. Ce qui veut dire que quand Dieu a créé la Terre, si on s'en tient au récit du déluge, il y avait beaucoup plus d'eau en suspension dans l'atmosphère qu'il y en a aujourd'hui. Beaucoup plus. Et ils ont calculé, les hydrologistes ont étudié la question, ils ont dit s'il y avait autant d'eau dans le ciel, ça faisait une canopée d'eau qui recouvrait toute la surface de la Terre. Ça veut dire que l'air était plus comprimé qu'il ne l'est maintenant, puisque rien n'empêche notre air de partir. Il ne part pas très loin, mais l'air est libre de monter, descendre, on va dire. Mais si vous avez comme un couvercle, vous aurez un air plus comprimé, la pression atmosphérique Ils ont calculé que la pression atmosphérique serait au moins 2,2 fois ce que c'est aujourd'hui. Ce qui veut dire, en termes réels, nous pèserions 2,2 fois de plus que nous pesons. Parce que le poids, c'est en fonction de la pression atmosphérique, l'attirance de la Terre et tout ça. Mais on serait aussi 2,2 fois plus costaud. Et de la même manière, les dinosaures, ces immenses dinosaures qu'on appelle préhistoriques, il n'y a aucun problème pour qu'un tel dinosaure puisse vivre et atteindre des tailles gigantesques avec une telle pression atmosphérique, parce qu'il y a assez de pression pour faire monter le sang dans ces énormes créatures sans problème. La pression dans les veines serait plus forte, ce qui permettrait à des animaux beaucoup, beaucoup plus gros de survivre et de se développer sur la Terre. Après le déluge, avec la chute de la pression atmosphérique, les animaux sont beaucoup plus petits. Et les fouilles archéologiques et dans les roches sédimentaires qu'on peut étudier montrent qu'il y a eu un cataclysme, un déluge, qui a déposé des couches successives de sédiments très rapidement, et que dans ces couches de sédiments, vous avez des fossiles d'animaux qu'on connaît aujourd'hui encore, les mêmes animaux, mais beaucoup plus gros. Tous les animaux dans ces couches sont beaucoup plus gros que les animaux que nous avons sur la Terre aujourd'hui. Même espèce, mais plus gros. Ce qui correspond avec cette idée qu'il y avait une atmosphère beaucoup plus dense avant le déluge qu'après. De la même manière, cette canopie d'eau aurait empêché les rayons les plus nocifs du soleil de pénétrer sur la terre et d'atteindre les plantes et les animaux et les hommes. Et en même temps, une pression atmosphérique augmentée à ce point permettrait à l'homme de vivre beaucoup plus longtemps qu'il ne vit aujourd'hui. D'ailleurs, dans Genèse chapitre 8 et 9, quand Dieu parle du déluge qui va venir sur la terre, il donne des chiffres de gens qui ont vécu très longtemps, 800 ans, 850 ans, 900 ans. Et après le déluge, il dit, les hommes vivront environ 120 ans. Et 3 ou 4 chapitres plus loin, vous avez toute une autre liste de généalogie avec des âges. Ça démarre à 450 ans, alors que c'était 800 ans avant. Mais en l'espace de 10 générations, on tombe à 200 ans, 180 ans, 150 ans, 120 ans. Ce qui fait que, après le déluge, la durée de vie des gens a été coupée directement de moitié, et dans l'espace de quelques générations, c'est descendu à ce que Dieu avait prédit, environ 120 ans. Quand Moïse arrive sur la terre, c'est donc 1000 ans après le déluge, dans son psaume, il dit, « Seigneur, tu permets à l'homme de vivre 70 ans et plus robuste 80. » Et voilà où nous en sommes depuis 1000 ans avant Jésus-Christ. Maintenant, avec la médecine moderne, on travaille moins, on se fatigue moins, on va dire que dans le temps, on faisait tout soi-même avec des mains, on peut vivre plus longtemps. Mais 70 ans, 80 ans, après, ça devient quand même difficile. Donc, le deuxième jour, la création de ce firmament, cette atmosphère bien particulière, qui a caractérisé toute la partie de l'histoire du monde depuis la Genèse 1, depuis la création, jusqu'au déluge qui est venu 1500 ans après, selon la parole. Le troisième jour, verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu dit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Alors chacun sait que si vous avez de la terre totalement recouverte d'eau, il faut qu'une partie de cette terre monte et qu'une autre partie descende. Parce que l'eau va chercher son niveau, son plus bas niveau. Donc si une partie monte de cette terre, l'eau va quitter et va descendre plus bas et vous aurez des continents et vous aurez des océans. Et c'est bien ce que nous voyons aujourd'hui. On a des continents qui sont au-dessus de la surface de la mer, encore que dans certains coins, comme sur le littoral méditerranéen et océanique, on craint avec le réchauffement climatique, on nous dit que les océans vont monter de 40 cm dans les 100 prochaines années et que quelques kilomètres de plage vont être inondés. Hein, bon, ça, c'est dommage, hein. Mais après ça, ça monte et puis vous avez les montagnes et puis le Canigou, il faut mettre beaucoup d'eau, hein, pour couvrir les montagnes comme cela. Mais on peut comprendre parfaitement l'idée de cette, sans doute, une action volcanique. Les volcans, les tremblements de terre, des failles dans la croûte terrestre, on observe ces choses encore aujourd'hui et on sait que dans le fond de l'océan Pacifique, par exemple, il y a des montagnes plus hautes que les Alpes et des trous énormes, très très profondes, des failles de partout, etc. On a constaté un travail volcanique incroyable sur la surface de la Terre, mais aussi sous les océans. Et donc, sans doute, quand Dieu a dit que les eaux descendent et que le sec paraisse, il y a eu un grand mouvement de plaques tectoniques, de travail volcanique, la terre a sans doute tremblé pas mal, et la terre sèche est montée, et puis les océans se sont formés. Et donc, maintenant, sur la terre ferme, Dieu dit, eh bien, je voudrais qu'il y ait des plantes, des arbres, de l'herbe, de toutes sortes. Alors, la question qui se pose, mais c'est trop facile. Est-ce que c'est vraiment trop facile ou est-ce que c'est la seule manière dont ça peut se faire? Les gens nous disent, oui, vous dites Dieu a tout créé, c'est trop facile. Mais comment voulez-vous que ce soit? Ils disent, on leur dit, mais ils nous disent, je voudrais avoir une maison. On va leur dire, mais embaucher un architecte et un maçon et qu'ils vous la construisent. Est-ce qu'ils vont nous dire, c'est trop facile? Un architecte, un maçon, comme tout le monde, donc moi je veux que ma maison se bâtisse par hasard. Ça serait beaucoup plus sympa si personne n'intervenait, ça montait par hasard. On va lui dire, bonne chance, vous pouvez attendre que votre maison se monte par hasard. Non. Si pour une simple maison, même la plus simple, des cabanons, il faut avoir un petit plan et quelqu'un qui va mettre des planches ensemble pour avoir un petit truc qui va nous abriter. À combien plus forte raison, s'agissant de l'univers, de tout ce qui pousse, de toutes les plantes, il faut quelqu'un qui planifie ça. Et nous voyons dans Genèse chapitre 1, c'est pourtant pas un texte récent, qui dit bien que chaque espèce va porter la semence, les espèces vont se reproduire chacun selon son espèce. Vous demandez aux gens qui travaillent la botanique aujourd'hui comment ça se passe, ils vont vous dire, il y a des espèces. Il y a des sous-espèces et des variétés. Les variétés, on peut les mélanger à souhait, mais on ne peut pas aller d'une espèce à l'autre. Ça ne se reproduit pas, ni avec les animaux, ni avec les plantes. Les espèces, elles restent hermétiquement séparées les unes des autres. Et pourtant, on a essayé de faire de la manipulation génétique. On arrive quelquefois en forçant, mais la plante hybride, si on arrive à faire deux espèces ensemble, cette plante-là ne se reproduit pas. Il faut toujours recommencer. Ce qui fait que dans la nature, ça n'arrive pas. Que ce soit des pommes, des poires, tous les fruits, que ce soit tous les herbes, que ce soit toutes les céréales, de l'orge, c'est de l'orge, du blé, c'est du blé. Et depuis que le monde est monde et que les gens étudient ça, les espèces sont hermétiquement séparées les unes des autres. La Bible dit, Dieu a fait cela. Il a fait des espèces. Des espèces parmi les plantes qui couvrent la terre. Le quatrième jour, versets 14 à 19, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Alors, ce quatrième jour pose beaucoup de problèmes pour les gens. Bien sûr, pour les évolutionnistes, ça leur pose un énorme problème. Parce que dans ce récit de la Genèse, on a l'impression que la terre a été créée avant le soleil. Alors qu'on nous dit, non, mais le soleil, il a été créé avant la terre, c'est évident. Pourquoi c'est évident? Le problème avec ces théories, c'est qu'on n'a aucun moyen de mesurer la vieillesse de la terre. On dit, si l'univers a commencé avec le Big Bang il y a 15,6 milliards d'années, la Terre, elle, a 5 milliards d'années. Pourquoi 5? Pourquoi pas 7? Pourquoi pas 3 ou 2 ou 1? Eh bien, c'est parce qu'on a calculé que... Mais personne n'est là pour le dire. Et il n'y a aucun moyen de mesurer l'âge de la Terre. Aucun moyen. Ce qu'on peut mesurer, par exemple, on peut mesurer des choses qui sont en train de se passer sous nos yeux. On peut mesurer, par exemple, la vitesse à laquelle le soleil se consume. Parce que le soleil brûle. Mais brûle en carburant, des gaz brûlent. Et on peut mesurer la vitesse à laquelle le soleil brûle. Si le soleil se consumait à la même vitesse qu'il se consume aujourd'hui, il y a 1 million d'années, juste 1 million d'années, le soleil touchait la Terre. Si le soleil avait touché la Terre il y a 1 million d'années, on verrait des traces sur la Terre. D'abord, il n'y aurait pas d'être humain. Ce qui veut dire que si le soleil brille, alors si le soleil continue à briller comme il brille, d'ici 100 000 ans, il n'y aura pas assez d'énergie au soleil pour maintenir la vie humaine sur la Terre. Ce qui veut dire que nous sommes dans une fenêtre, si vous voulez, où le soleil brûle bien assez fort pour nous éclairer et nous réchauffer, mais il y a 1 million d'années en arrière, il nous aurait cramé toute la Terre. Et dans 1 million d'années à venir, la Terre sera un immense glaçon. De deux choses l'une, soit Dieu a créé le Soleil, la Lune et les planètes du système solaire le quatrième jour, soit il les a créés le premier jour, vraisemblablement, et le quatrième jour, il les désigne pour marquer les temps et les saisons. Voyez ? C'est ce qu'il dit. Il dit... Il fait le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Soit donc, il les a créés ce jour-là, le quatrième jour, soit il les avait créés le premier jour et il les a rendus visibles le quatrième jour. Mais si on s'en tient vraiment au texte, on a bien l'impression qu'il les a créés le quatrième jour. Si nous sommes dans une thèse évolutionniste de 15 milliards d'années, etc., on est obligé de penser qu'il les a créés il y a 15 milliards d'années et la Terre est venue plus récemment. Et là, nous sommes dans les jours de 24 heures. Si on s'en tient au texte, nous sommes dans les jours de 24 heures. Que le Soleil vienne 3 jours après la Terre, c'est presque en même temps. Ça ne gêne pas, ça vient 72 ou 96 heures après la création de la Terre. De toutes les façons, dans le premier vers, dans le verset 3, que la lumière soit, il ne dit pas que c'est la lumière du soleil, il dit que c'est une lumière, une source lumineuse. Une source lumineuse avec la planète Terre qui est une sphère, ça tourne. Dès le premier jour, vous avez une rotation, vous avez le jour et la nuit. Et si le quatrième jour, il met en place, et on peut le comprendre, le soleil qui sera la source lumineuse et de chaleur définitive pour la Terre, peut-être ce point lumineux qui a créé au début, il dit, bon, ça, je vais faire maintenant le soleil, il va rester là, il va assurer sa fonction, mais j'ai aussi créé des étoiles et la lune. Quand il crée la lune et le soleil, les étoiles, heureusement pour nous qu'il a fait. La vie sur la Terre ne serait même pas possible sans la lune. Par exemple, saviez-vous que les océans prennent l'oxygène pour leurs poissons? Par brassage. C'est pas par chimie. L'oxygène n'entre pas dans l'eau par un processus chimique. Il entre dans l'eau par un brassage mécanique. Les vagues qui viennent sur tous les bords, etc., et qui remuent, ça prend de l'oxygène et ça le rentre, ça le malaxe à l'intérieur des eaux pour permettre la vie marine. Et sans ce brassage, les eaux seraient stagnante et serait impropre à vivre. on aurait toutes sortes d'affaires qui flotteraient là-dedans. C'est la puissance de la Lune, les marées lunaires qui fournissent beaucoup de choses pour la Terre et qui rendent notre vie possible. Et donc, à partir de ce jour, il dit les époques sont marquées. On a le mois, la Lune définit ce qu'on appelle le mois, à peu de choses près. Nous avons l'année, c'est le temps qu'il faut pour que la planète Terre tourne tout autour du Soleil une année. Nous avons le jour et la nuit, c'est le temps que la Terre tourne sur elle-même face au Soleil, la rotation. La seule chose qu'on n'a pas encore là-dedans, c'est la semaine. Mais la semaine, c'est Dieu qui va l'inventer et qui va nous la donner à la fin de la première semaine de création. 6 jours de création, 1 jour de repos, ça fait 7 jours, c'est la semaine. Donc c'est Dieu qui nous donne la semaine, mais les 3 autres mesures de temps sont données par ses corps célestes. Et c'est pour cela qu'il dit que ça marque des jours et la nuit, et que ça sert pour marquer les époques, les jours et les années. Nous avons le solstice d'hiver, d'été également, qui marque les saisons, les 4 saisons. Donc toutes ces marques du passage du temps sont assurées par l'emplacement et par la progression des corps célestes autour de notre Terre. Donc maintenant, on est bien, on a le marquage du temps, on a la source lumineuse de chaleur, on a la Lune qui nous accompagne, et on arrive au 5e jour. Et bien sûr, les gens disent, oui, attendez, mais sans soleil, comment voulez-vous que les arbres poussent et que les plantes poussent? Parce que si le 3e jour, ça se fait 3 millions d'années avant le 4e jour, évidemment, aucune plante ne va pousser sans soleil et sans lune. Oui, mais on n'est pas dans les chiffres de millions d'années, c'est 24 heures. Si vous créez des plantes et des arbres le 3e jour, vous avez une source lumineuse et que le lendemain, le soleil, la lune et tout est mis en place avec les étoiles, les plantes n'ont pas souffert pendant la nuit. Ça se passe rapidement, selon le texte. Le 5e jour, création d'animaux marins et d'oiseaux, dans les versets 20 à 23, et là aussi, selon leur espèce, les oiseaux et des grands animaux marins. Encore aujourd'hui, ces animaux sont classés par famille, par espèce, par variété. Tous ces animaux se reproduisent toujours à l'intérieur des espèces. Ce que nous constatons dans la vie réelle de tous les jours en regardant les animaux et les oiseaux et les plantes, c'est exactement ce que dit le récit de la Genèse. Alors, est-ce que ce n'est pas logique de croire que ce récit est vraisemblable, s'agissant du début du monde? La thèse évolutionniste nous dit que tous les êtres vivants seraient issus d'une première forme de vie. Après, sur une très longue période, ces formes de vie se seraient diversifiées et auraient évolué par des mutations. La sélection naturelle et le hasard. Mais ça n'explique pas comment sont venues les espèces. Parce que si les animaux pouvaient se développer par hasard, on devrait avoir autant d'espèces d'animaux qu'il y a d'animaux. Pourquoi est-ce que nous avons des espèces tellement cloisonnées si ça s'est fait par hasard? Ça, c'est la question qui se pose. Et si ces espèces se sont formées par le hasard et par la sélection naturelle, comment se fait-il qu'elles soient tellement cloisonnées qu'elles ne puissent pas se reproduire entre elles? Quand est-ce qu'est venu ce cloisonnement? Ce sont des questions que la théorie ne peut pas expliquer. Et surtout, comment ça se fait qu'on n'ait jamais trouvé un animal ou une plante qui serait ce fameux maillon manquant entre deux espèces? On parle parfois du chaînon évolutionnaire, de la chaîne évolutionnaire, évolutionniste, et il y a le maillon manquant. Vous avez entendu parler du maillon manquant? Je veux dire, toute la chaîne est manquante, il n'y a aucun maillon. Il n'y a pas de maillon entre la forme primitive de vie et puis la forme secondaire et la forme tertiaire. Il n'y a pas entre tel animal et tel autre, entre telle plante. Il n'y a aucun maillon. Il n'y a aucun maillon dans la chaîne. Chaque chose est totalement séparée. Et à chaque chose se reproduit elle-même. Bien sûr, les chiens, on pourrait développer tous les chiens qui existent à partir d'une première paire de chiens, à cause de la génétique, des gènes dominants et récessifs, des traits, etc. La génétique explique beaucoup de choses. Et ça, on le vérifie tout le temps. On a fait des centaines de variétés de roses et de toutes sortes de fleurs par la génétique. Donc, à l'intérieur de l'espèce, beaucoup de choses sont possibles. On ne peut pas sortir de ces barrières de l'espèce. Le sixième jour, on arrive donc où Dieu crée tous les animaux terrestres. Alors là, on parle de bétail, des reptiles, des animaux terrestres. Et il fait les animaux, le bétail, selon leur espèce, toujours pareil. Et à la fin, verset 26, ça nous concerne. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alors, la thèse biblique, ce que nous lisons là, et vous venez de le lire avec moi, seul l'homme est créé à la ressemblance de Dieu. Vous avez bien remarqué, créons l'homme à notre ressemblance. C'est une touche personnelle. Jusque-là, il dit que les hommes produisent des animaux de toute espèce, qu'il y ait de l'herbe et des plantes sur la surface, qu'il y ait des arbres, qu'il y ait des oiseaux, qu'il y ait, et puis ça se crée à foison. Et là, il marque une pause. Tous les animaux sont créés, toutes les plantes sont créées, tout le décor est planté. Maintenant, on va créer l'homme à notre image. Alors d'abord, le mot « notre ». Elohim, au commencement, Elohim, c'est le mot pour Dieu ici. Elohim, c'est un pluriel. C'est un pluriel. Et en français, on en dit Elohim, Dieu X créer. On a créa. Pourquoi? Parce que, comme en français, on peut dire la famille possède sa maison. La famille, c'est un sujet traité comme un singulier, la famille, mais impliquant plusieurs personnes. Et Elohim, c'est un pluriel qui agit comme un singulier. Donc, c'est ce qu'on appelle une unité plurielle, c'est-à-dire, la Bible détaille par la suite, trois personnes divines, mais de la même essence, étant toutes les trois Dieu, pas moitié Dieu, pas un quart Dieu, pas moitié humain, mais entièrement, totalement Dieu, qui s'appelle entre eux Père, Fils et Esprit Saint. Et la Trinité, ce Dieu pluriel, unitaire, a décidé de créer un homme à son image, tripartite. Nous avons nous aussi trois parties. On a encore la partie visible, d'ailleurs comme dans la Trinité, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est la seule personne qui soit devenue un homme. C'est la seule partie visible de Dieu. Et la Bible qui m'a vu a vu le Père. C'est lui qui est Dieu rendu visible. Et chez vous et chez moi, la seule partie qui est visible, c'est notre corps. À l'intérieur de ce corps, nous avons notre personnalité, nos émotions, notre intellect, notre volonté. Ça, c'est notre âme. Et le corps peut vieillir et tout, mais l'âme reste entière. Et puis, nous avons la possibilité d'entrer en contact avec Dieu, donc notre conscience, notre capacité de penser à l'infini, notre pensée de la perfection, notre pensée de l'éternité, notre conscience de Dieu, notre soif spirituelle, tout ça c'est la fonction de l'esprit. C'est plus élevé encore que simplement nos émotions, nos décisions et notre intellect. Esprit, âme, logé dans un corps. Comme Christ, Dieu manifesté homme, Dieu le Fils, mais en qui demeure le Père et l'Esprit Saint aussi. Trois en un, vous et moi, nous sommes trois parties en un. Non seulement cela, nous avons trois parties, mais nous avons également la conscience. On a la pensée de l'éternité, on a la connaissance du bien et du mal, qu'on a d'ailleurs acquis dans le jardin d'Éden par Adam et Ève. On reçoit un mandat. Le mandat, on le voit dans le verset 27, oui. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Puis il donne aux animaux toute herbe verte pour nourriture. Donc on reçoit le mandat de dominer, de gérer, si vous préférez, la terre et tous les êtres que contient la terre. Parfois on ne fait pas bien, mais on a cette responsabilité devant Dieu de gérer la planète Terre. Et puis on voit dans le chapitre suivant la création d'Ève, qui paraît aussi pour nous invraisemblable parce qu'on n'a jamais vu une femme être créée comme ça. Mais avant Ève, il n'y avait pas de femme. Et donc Dieu a fait quelque chose à l'origine que l'homme essaie encore de faire. Il a cloné Adam, c'est-à-dire il a pris une côte, peut comprendre les cellules souches. Il a pris une côte et il a formé une femme de la même matière, du même matériau humain qu'Adam. Ce qui fait qu'Ève est strictement autant humaine qu'Adam. C'est le même tissu, c'est les mêmes os, c'est les mêmes cellules, c'est la même espèce, c'est le même genre de personne. Et il avait soufflé dans les narines d'Adam un souffle de vie. Et donc, en Adam, il y avait ce souffle de vie, il a pris du matériau vivant d'Adam, il a créé la femme, et la femme avait déjà ce souffle de vie, et il a présenté à l'homme, qui en était ravi d'ailleurs, qui lui, voici celle qui est haut de mes os et chair de ma chair. Soit Dieu le lui a expliqué, soit il a compris instinctivement, il dit, cette créature est sortie de mon être physique. Elle fait partie de moi. Et alors, elle est complémentaire. Et donc, Dieu a donné la femme à l'homme, spécialement formé par Dieu, possédant le même souffle que lui, pour l'assister, pour l'aider, pour être son adjoint. Et donc, Dieu établit en même temps le couple, le mariage, lui demandant de former une famille unique. Adam et Ève n'avaient pas de père et pas de mère. Mais Dieu dit, c'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc il a dit pour les autres. Donc nous devons pas quitter, pas être fâchés avec nos parents, mais dire à nos parents quand on se marie, papa et maman, je vous aime, je vous respecterai toujours, je vous écouterai toujours, mais maintenant je forme un foyer avec mon épouse et nous allons devoir décider de tout nous-mêmes et frayer notre propre chemin. C'est très important que la famille établisse son foyer. Et donc l'homme est créé avec intelligence, avec émotion, avec volonté, avec une âme, avec un souffle de vie immortel. Que disent les évolutionnistes ? L'homme est le développement le plus récent, c'est l'évolution la plus aboutie de la famille des mammifères. Sa personnalité, la personnalité humaine, se serait développée pour lui permettre de s'adapter à son environnement naturel et humain. Autrement dit, l'homme n'avait pas de personnalité, c'était un humanoïde, et peu à peu, eh bien parce qu'il fallait trouver un moyen de parler pour chasser le gibier ou je ne sais quoi, a développé par pure nécessité le langage, et regardez ce que ça donnait. C'est quand même brillant, quand même, d'en être arrivé là, à se construire tout seul, nous-mêmes. Et sa religion, la religion des hommes, eh bien, aurait été inventée par d'autres hommes pour mieux les rendre esclaves. C'est triste, comme thèse. Donc, notre but ce soir, et je termine, c'est de démontrer que le récit de la création dans Genèse 1 et Genèse 2, s'accorde avec tous les phénomènes naturels que nous observons dans la nature. On voit cette question d'espèce, on voit bien le firmament, on voit bien le soleil, la lune, on voit la rotation de la Terre. Tous les phénomènes que nous constatons par rapport à l'univers sont résumés dans un chapitre de la Genèse. De plus, Jésus lui-même a parlé d'Adam et d'Ève. Il a parlé de leur création comme d'un récit historique. Il n'a pas dit, vous souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, il y a cette fable sur ce couple dans ce soi-disant jardin. Non, il a dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur fit l'homme et la femme et les a unis, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Voilà comment il a répondu à la question. Alors, si nous disons Genèse 1 et Genèse 2, c'est une sorte de parabole, c'est une sorte de fable. Nous sommes en train de dire que Jésus n'était pas vraiment au courant que c'était une fable et une parabole. Et le pauvre, lui, il l'a pris littéralement. C'est dommage, hein? Jésus n'était pas, il ne savait pas ce que nous savons aujourd'hui. Il l'a pris littéralement. Ça veut dire, ça revient à appeler Jésus quelqu'un qui n'était pas au courant, au mieux, ou alors un menteur. Ce même Jésus qui dit, je suis moi-même la vérité. Peut-on croire quelqu'un qui dit, je suis la vérité, s'il commet ne serait-ce qu'une seule erreur dans ce qu'il dit ou ce qu'il comprend? L'apôtre Paul affirme que la mort est le résultat de péché. Ça, c'est très important. Il dit, ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, car tous ont péché. Il a dit, la mort n'était pas dans le monde avant le péché, mais le péché a amené la mort. Dans la thèse évolutionniste, vous avez des êtres en formation, des espèces qui sont en développement. Pendant des millions d'années, des dinosaures, enfin, toutes sortes d'animaux et d'hommes préhistoriques qui meurent pendant des centaines de générations avant que l'homme ne pêche dans le jardin d'Éden. Alors que la Bible dit, c'est le péché qui est la cause de la mort. Qui faut-il croire? Si le péché c'est la cause de la mort, c'est l'homme qui a péché, et avant le péché de l'homme et de la femme dans le jardin d'Éden, il n'y a jamais eu de mort. Et à cause du péché, il y a eu la mort. Donc, selon la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, selon le témoignage de Moïse dans la Genèse, de Jésus dans les Évangiles et de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, ces trois témoignages concordent pour dire Genèse 1 et Genèse 2, c'est le récit historique de l'origine du monde en 6 jours de 24 heures, le temps d'une rotation de la planète. Nier la création en 6 jours, c'est nier même le principe de la semaine, car la loi de Moïse établissait la semaine de 7 jours avec un jour de repos sur le modèle de la semaine de la création. En Exode 20, quand Dieu donne les 10 commandements, tu observeras le 7e jour comme un jour de repos, car l'Éternel a créé la terre en 6 jours et il s'est reposé au 7e jour. Par conséquent, mes amis, nous n'avons aucune raison scientifique et nous n'avons aucune raison logique de remettre en doute le récit de la Genèse et de la création du monde. La seule raison qui pourrait nous pousser à réinterpréter Genèse 1 et Genèse 2, c'est pour essayer de la faire concorder avec la théorie de l'évolution. Essayer de faire en sorte que les deux théories aillent ensemble. Mais elles ne vont pas ensemble parce qu'elles sont contradictoires. Soit il y a eu un créateur intelligent et divin qui a tout créé selon un plan, ça c'est le récit de la Genèse, soit tout s'est fait par hasard sur une très longue période de temps. Ça c'est l'autre thèse. Les deux ne peuvent pas être mises ensemble, elles sont contradictoires. Maintenant, et je termine, devant ces deux thèses, vous regardez à travers le monde entier, selon toute l'expérience que vous avez pu accumuler au cours de votre vie, qu'est-ce qui sur cette planète marche bien? Les choses qui sont conçues et entretenues soigneusement par les hommes ou les choses qui se sont faites par pur hasard? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui marche bien? Le hasard ou un plan d'architecte et en soin constant? La réponse est évidente. Tout ce qui marche bien, c'est parce que quelqu'un l'a conçu, quelqu'un d'intelligent, qui l'a conçu, et quelqu'un qui l'entretient. Je termine avec ces versets de l'Épître aux Hébreux, chapitre 1. Même dans le Nouveau Testament, Dieu parle, et il parle souvent, de la création. Ce n'est pas uniquement une question de Genèse. Hébreux, chapitre 1, nous lisons juste les trois premiers versets. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Nous apprenons par ici que Dieu le Père a créé le monde par l'intermédiaire de Dieu le Fils. Et que ce Dieu le Fils, aujourd'hui encore, maintient tout l'univers en place par sa parole puissante. Non seulement il fait ça, mais il a fait la purification de nos péchés en payant pour nos péchés sur la croix et en ressuscitant d'entre les morts pour nous offrir la réconciliation avec Dieu.